Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ce drame en Espagne où le bilan s'alourdit ce matin à 39 morts dans l'accident de train survenu hier soir en Andalousie. C'est un train qui a déraillé et qui en a percuté un autre. C'est à partir d'aujourd'hui que les futurs bacheliers doivent formuler leurs vœux d'orientation sur Parcoursup. Et la période est tellement stressante que chaque année, le recours à des coachs privés est en hausse de 10 à 20%. C'est une information RMC qu'on vous révèle ce matin. Et puis on va retourner dans ce journal au Maroc au lendemain de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, mais alors dans la confusion la plus totale.
Le bilan de l'accident de train s'alourdit à 39 morts ce matin en Espagne.
Oui, dans ce qui est la pire catastrophe ferroviaire depuis le drame, souvenez-vous, de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2013. Hein, Pierre Chaperon, vous êtes en Espagne en direct ce matin pour RMC. C'est donc un train parti de Malaga qui a déraillé dans la soirée et qui en a percuté un autre pour des raisons encore inconnues.
Oui, un accident extrêmement étrange. Ce sont les mots du ministre des Transports en Espagne, Oscar Puente, qui, lors d'une conférence de presse dans la nuit, a indiqué que toute explication à ce drame ne serait à ce stade que pure spéculation. Est-ce un problème de matériel ou bien de chemin de fer? Beaucoup d'interrogations du côté des experts également. Le train qui faisait la liaison entre Malaga et Madrid et dont les derniers wagons ont déraillé sur une ligne droite et percuté un convoi qui venait dans le sens inverse avait moins de 4 ans d'ancienneté. La ligne de chemin de fer avait été rénové en mai dernier. Les survivants de ce drame parlent d'un gros coup de frein, une sorte de tremblement de terre et puis le noir total, une scène de chaos digne des films d'horreur, un cauchemar, des passagers qui tentent de sortir des deux trains engagés dans cette collision. Une enquête a été ouverte et elle devrait durer plusieurs semaines alors que les premiers rescapés sont arrivés dans la nuit par autobus à Madrid.
Et le bilan est encore provisoire hein, puisqu'il y a, selon le dernier bilan, 24 blessés dans un état grave donc ce matin en Andalousie, là où est survenu ce drame ferroviaire hier soir. Je vous signale qu'il y aura une réunion des dirigeants européens dans la semaine, sans doute jeudi. On l'a appris hier soir pour coordonner la riposte face aux menaces de surtaxes douanières brandies durant le week-end par Donald Trump qui répète, hein, vous savez, sa volonté de s'emparer du Groenland et en veut aux pays dont la France ayant envoyé des contingents militaires en fin de semaine dernière. C'est en Conseil des ministres aujourd'hui que le gouvernement va décider s'il fait passer le budget de l'État, soit par 49.3 finalement, soit par ordonnance, qui serait une grande première. Thomas Bécard du service politique à RMC en direct ce matin. Le gouvernement va prendre sa décision. Il a pris le soin en attendant de faire une ultime concession aux socialistes pour s'éviter une censure.
Oui, tout à fait. Le Premier ministre a fini par donner le point aux socialistes sur la surtaxe des grandes entreprises. Elle devait être exceptionnelle. Les 300 plus grands groupes français contribueront finalement en 2026 à hauteur de 8 milliards d'euros, comme en 2025. Une façon de financer les concessions sur le volet dépenses, plusieurs milliards d'euros pour préserver la prime d'activité, annuler le gel du barème de l'impôt sur le revenu ou encore généraliser les repas à 1 euro pour les étudiants. Des demandes, là encore, du PS. En abandonnant un vote sur le budget, Sébastien Lecornu devait s'assurer la non-censure des socialistes. Réponse de Boris Vallaud, patron des députés PS, il y a quelques minutes, compte tenu des avancées, nous pouvons envisager la non-censure. Sébastien Lecornu doit maintenant décider avant le Conseil des ministres cet après-midi s'il utilise les ordonnances ou le 49.3. Un indice, les socialistes ne veulent pas entendre parler de la première option. Avec le feu vert du PS, donc, le Premier ministre devrait revenir sur son engagement et utiliser le 49.3 pour enfin adopter le budget 2026.
Réponse donc dans la journée. Et alors, c'est une période de stress qui commence ce matin pour de nombreux parents. Leurs enfants aussi, puisqu'ils doivent à partir d'aujourd'hui formuler leurs vœux sur Parcoursup. Chacun connaît cette plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Il y a jusqu'au 12 mars pour le faire. Mais c'est une telle période de stress que des familles font carrément appel à des coachs privés pour les aider dans leur orientation. Louis Salé, vous avez enquêté pour RMC en direct ce matin. Vous nous révélez ce chiffre des inscriptions donc en hausse chaque année de 10 à 20%.
Oui, grâce à une publicité bien ciblée, hein, les offres pullulent en ce moment sur les réseaux sociaux, dans les salons de l'orientation. Ces coachs proposent des entretiens souvent en visio aux alentours de 150 euros. Dans les formules les plus chères, hein, près de 800 euros, le coach prend le temps de connaître l'élève avec des tests pour cerner ses envies, analyser son niveau scolaire construire de A à Z son projet d'orientation. L'objectif, définir une liste de vœux qui lui correspondent sur Parcoursup et pour lesquels il a des chances d'être pris. L'orientation est un sujet de stress pour les lycéens qui se sentent souvent démunis. Les profs ne sont pas toujours renseignés sur les filières, faute de formation sur le sujet. Dans les lycées, il y a peu de psychologues scolaires chargés de l'orientation, un conseiller seulement pour plus de 1000 élèves, ce que déplore la sociologue Anne-Claudine Oller.
Si l'institution se dit qu'il faut accompagner individuellement chaque élève de première et terminale, qu'elle crée un corps de conseillers d'orientation suffisamment conséquent pour pouvoir accompagner tous les élèves de terminale et de première 8 heures par an.
Et plusieurs rapports de la Cour des comptes du Sénat pointent ce manque d'accompagnement, une faille dans laquelle s'engouffrent de plus en plus de prestataires privés. Les sénateurs dénoncent ce système qui, je cite, « aggrave les inégalités sociales entre élèves ».
C'était le choix de la rédaction signée Louise Salé ce matin sur RMC. Pas d'école et pas de transport scolaire ce matin dans le département de l'Aude. Un des 5 à être en vigilance orange, hein, Géraldine vient de le dire, pour les inondations. Il y pleut énormément, on n'avait pas vu ça depuis 2022, depuis ce week-end dans ce département. À tel point que dans la soirée, le préfet de l'Aude a carrément ordonné l'évacuation de 2 quartiers de Narbonne où on redoute la crue sur place d'un cours d'eau. Tiens, Baptiste habite un de ces quartiers.
À 20h30 hier, nous avons reçu un message de la préfecture concernant de potentielles crues. Et donc, si on avait un étage dans le quartier, de se réfugier à l'étage, mais sinon d'aller au centre de secours, au centre d'accueil. C'est compliqué, il n'y a pas de transport en commun. L'agglomération ne met pas à disposition les bus. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui passe avec une voiture du Citybus pour dire aux habitants de ne pas attendre aux abribus. Je viens travailler ici tous les matins et je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est vraiment impressionnant.
Et alors, dans les 5 départements vigilance orange, le risque d'avalanche est de 4 sur une échelle de 5 dans les montagnes de Corse. Pareil pour les Pyrénées-Orientales et dans les possible pour le massif du Kera. C'est aujourd'hui que les joueurs du Sénégal sont attendus à Dakar pour fêter leur victoire hier soir à la Coupe d'Afrique des Nations, la 2e de leur histoire, remportée 1-0 en prolongation contre le Maroc, le pays hôte. Le Maroc avait raté un pénalty en toute fin de match. Aurélien Tiercin, vous êtes en direct de Rabat pour RMC, vous jouez cette finale. C'est ce pénalty qui a mis le feu aux poudres, on peut le dire.
Oui. Absolument, parce que c'est une décision arbitrale contestée, en tout cas vivement par les Sénégalais, juste après s'être vu refuser un but lui aussi sur une action litigieuse par l'arbitre congolais du match. Et les joueurs sénégalais, sur décision du sélectionneur, sont rentrés au vestiaire pendant 10-15 minutes. Une situation absolument jamais vue, je n'ai jamais vu ça dans une compétition de ce niveau, et ça a enflammé le stade dans le mauvais sens du terme. Les journalistes commençaient à se taper en tribune de presse entre Sénégalais et Marocains, les supporters sénégalais ont arraché des sièges, sont descendus sur la pelouse, le match interrompu évidemment. Il a fallu 4-5 rangées de personnel de sécurité pour contenir tout le monde dans le chaos le plus total. On ne savait plus si le match allait reprendre. Finalement, le légendaire Sadio Mané, le capitaine du Sénégal, a fini par convaincre ses coéquipiers de revenir sur la pelouse, et il a bien fait. Il a prié avant le pénalty de Brahim Diaz, pénalty manqué, but en prolongation de Pape Gueye, un missile dans la lucarne. Le match est donc encore plus entré dans la légende. Heureusement, pas de débordement gravissime à l'extérieur du stade ni à l'intérieur, mais la tension a continué dans l'après-match, puisqu'en conférence de presse, Pape Thiaw, le sélectionneur champion d'Afrique, n'a même pas pu parler sous pression de journalistes marocains entrés en masse dans la salle pour contester l'attitude de Pape Thiaw. Finalement, donc, pas de conférence de presse. Du côté de Walid Regragui, le coach marocain, lui a parlé, et il a parlé notamment d'une triste image donnée du football africain.
Voilà, Aurélien Tiercin en direct pour cette fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous signale quand même qu'il y a eu quelques tensions aussi à Paris entre forces de l'ordre et supporters sénégalais dans le secteur des Champs-Élysées, où les rassemblements de supporters étaient pourtant interdits.